Et comme vous le savez tous, aujourd'hui dans le monde de la chrétienté, on célèbre la Pâque. Pour quelques-uns, cela veut dire des lapins en chocolat. Et même les commerçants vont un peu plus loin pour attirer la jeunesse, les jeunes. On a même aujourd'hui des Superman en chocolat et des Spider-Man en chocolat, des Tortues Ninja en chocolat, puis j'en passe. Pour d'autres aussi, ce sont des cocos, des œufs bien décorés. Puis on peut aussi même des fois organiser des chasses aux œufs dans la maison où est-ce que les petits ont beaucoup de plaisir à aller chercher et trouver les œufs que les parents ont cachés. Mais ça, c'est tout à fait correct, je n'ai rien contre cela. Mais ce matin, mon but, c'est de focaliser sur la résurrection, dans un premier temps la résurrection de Christ, et ensuite la résurrection des croyants. Et j'aimerais commencer en vous posant une question, parce que j'ai parlé de la joie, la paix, l'espérance, la consolation qui est associée avec la résurrection. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous connaissez justement ces choses? Tony Campolo raconte ce qui suit. Il a dit qu'il avait entendu un sermon qui a été prêché lors d'un dimanche de Pâques et qui l'avait vraiment impressionné. Et pourtant, le prédicateur n'avait qu'un seul thème. Je pense que plusieurs de nous, on pourrait tirer une leçon de cela. Et son histoire était comme ceci. Jésus est sur la croix. Il est en agonie. Il crie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le prédicateur a continué ça, c'était vendredi. Mais dimanche s'en venait. Sa mère Marie est au pied de la croix. Son cœur de mère est brisé par les souffrances de son fils. Ça, c'était vendredi, mais dimanche s'en venait. L'apôtre Jean est là, bouleversé par les événements. Il ne sait plus quoi penser. Mes chers amis, ça c'était vendredi, mais dimanche s'en venait. Pierre n'est pas là. Il avait renié son maître. Maintenant, c'est un homme brisé, confus. Ça, c'était vendredi, mais dimanche s'en venait. Les disciples sont cachés quelque part dans Jérusalem. Ils ont peur. Mais ça, c'était vendredi. Et dimanche, s'en venait. Le diable et tous ses acolytes des démons sont en train de faire la fête. Mais ça, c'était vendredi. Mais dimanche, s'en venait. Tony a dit, il n'a jamais entendu un sermon si puissant. La foule était là qui l'écoutait. Et il leur disait, peut-être dans votre vie, vous êtes en train de vivre vendredi. Mais courage, dimanche s'en vient. Et c'est ce que j'aimerais aussi vous dire ce matin, si vous êtes en train de vivre des choses difficiles, vous êtes découragé, peut-être par les circonstances de la vie. Vous avez peut-être aussi perdu votre joie d'être chrétien, la paix. La bonne nouvelle ce matin, c'est que oui, peut-être vous vivez vendredi, mais dimanche s'en vient. Et puisque cela, dimanche est ici, parce que c'est le dimanche de Pâques, et ce que nous allons lire ce matin dans Jean chapitre 11, 20 à 26, nous montre ce que Jésus avait à dire, s'applique tellement bien à notre société et aussi à notre situation aujourd'hui. Dans le contexte, nous assistons à des funérailles. Un homme, Lazare, est mort. Ses sœurs, Marie et Marthe, sont complètement démolies par les événements. Elles avaient envoyé chercher Jésus pendant que le frère était vivant. Pensaient qu'il pouvait intervenir pour les aider. Il semble que Jésus est arrivé trop tard. Alors lisons à partir du verset 20, Jean chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ça, c'était vendredi. Et maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ça, c'était dimanche. Et ce matin, j'aimerais, en étudiant ce passage, considérer trois vérités importantes à propos de la résurrection. Et des vérités qui devraient vous donner et me donner, justement, la joie, la paix, la consolation et l'espérance pour notre vie chrétienne. Et si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas Christ comme votre sauveur personnel, mais c'est un message aussi qui s'applique particulièrement à vous. J'aimerais faire deux remarques ici à ce stade. Vous savez, la résurrection n'est pas la réanimation. On n'est pas ici dans la salle d'urgence de l'hôpital Sainte-Marie ou bien Toutier du Rivage. Ce n'est pas la réanimation. Ce n'est pas non plus la réincarnation. C'est une croyance qui gagne de plus en plus de popularité dans notre société. Le fait que l'homme va mourir et revivre et mourir et revivre et après plusieurs séries de morts et de naissances successives, il va atteindre le nirvana, le top. Le paradis. Pourtant, la Bible est claire. Jésus a dit, il est réservé, la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Non, on parle ici de la résurrection. Le dictionnaire décrit la résurrection comme le retour de la mort à la vie. Et ce que nous avons dans notre passage ce matin, c'est une réponse à une question qui a été posée presque il y a 4 000 ans plutôt. Un homme, Job, a posé la question suivante. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, c'est ça qui l'a intrigué. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, on parle ici ce matin de la solution de Dieu pour la problématique de tout être humain sur la face de la planète Terre, la solution pour la mort. Alors, dans un premier temps, si vous voulez jouir de cette joie, de cette paix, de cette consolation, de cette espérance qui découle de la résurrection, mais vous devrez être conscient du personnage central de la résurrection. Regardez votre texte, si vous voulez, au verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Marquez bien, il n'a pas dit, je suis au courant de la résurrection. Il n'a pas dit, je connais comment ça fonctionne, la résurrection. Il a dit, c'est moi. Moi, je suis la résurrection. Ce matin, je vais vous présenter, monsieur, la résurrection. Vous savez, quand vous allez dans une école, ils vous disent, il y a deux personnes, deux personnages, deux personnes importantes à connaître. Madame la secrétaire et monsieur le concierge. Quand on parle de résurrection, le personnage important à connaître, c'est monsieur. La résurrection, c'est Jésus. Et comment se fait-il que Jésus a pu faire une telle déclaration, qu'il était lui-même la résurrection? Mais dans un premier temps, Jésus est le principe de la résurrection. Et dans le contexte biblique, le mot principe veut dire qu'il est l'auteur, il est le commencement, il est l'origine. Alors la résurrection commence avec Christ. Pas de résurrection, pas de Christ, pas de résurrection. Et ce matin, laissez-moi vous dire que Bouddha ne peut pas vous donner la résurrection. Krishna non plus ne peut pas vous donner la résurrection. Mahomet non plus ne peut pas vous donner la résurrection. Seul Christ, et Christ seulement, peut vous ressusciter après votre mort. Parce qu'il est la résurrection lui-même. Deuxièmement, Christ est la phase 1 de la résurrection. Alors, ceux et celles qui sont familiers avec la construction, vous savez qu'on fait des domaines. Et là, les constructeurs sont fiers de mettre phase 1. Et ça suppose qu'il va y avoir une phase 2, une phase 3, puis une phase 4. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 18, pas besoin d'y tourner, le texte nous dit, il est la tête du camp, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le premier-né d'entre les morts. Et ce terme-là, premier-né, on peut le comprendre, il y a deux sens à ce terme-là. Dans un premier temps, le premier-né veut dire que Christ est le premier qui est ressuscité d'entre les morts et qui n'avait pas besoin de mourir à nouveau. Et dans un autre sens, c'est un titre honorifique qui veut dire que tous ceux qui ont été ressuscités et qui seront ressuscités, Christ garde la suprématie. Alors, il n'est pas seulement inventé la résurrection, il n'est pas seulement à l'origine de la résurrection, mais Christ l'a modelé pour nous. Il est la phase 1. Et je me demande ce matin si vous serez, vous, dans la phase 2. Parce que Christ est le modèle par sa résurrection de notre propre résurrection. Il est le premier-né de la résurrection, ceux qui sont revenus d'entre les morts. Et non seulement il est le principe, non seulement il est la phase 1, mais il est aussi le pouvoir derrière la résurrection. Dans Jean chapitre 5 au verset 25, Jésus va dire ces paroles. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et au verset 28-29, il continue, « Et ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. » Et ça, c'est le pouvoir que Jésus possède, de faire sortir les morts du tombeau. Et ce pouvoir-là, il a dit et il a manifesté même dans sa propre résurrection. Dans Jean 10, 18, il a dit, personne n'aime l'autre en parlant de sa vie. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, le pouvoir pour la résurrection est aussi en Jésus. Et finalement, Jésus est aussi la preuve qu'il y aura bel et bien une résurrection. Et Michel a touché ce passage ce matin pendant le repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15. S'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça, c'est l'argument de l'apôtre Paul. Et si Christ n'est pas ressuscité, mes chers amis, fermons la boutique. Cessons de prêcher. On est des menteurs. Personne ne peut être sauvé. Ceux qui sont morts en Christ sont tous péris. Bref, comme l'apôtre Paul dit, on est des malheureux. Malheur à nous qui se disent chrétiens. Mais ce matin, qu'est-ce que le texte nous dit? Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Wow! Alléluia! Gloire au Seigneur! Christ est ressuscité. Il est la phase 1 de la résurrection et d'autres vont suivre. Il y a un docteur Simmons qui a raconté l'histoire suivante. Il y avait un musulman qui s'était converti au christianisme et devenu chrétien. Et un jour, il y avait quelques-uns de ses connaissances qui sont allés le voir. Puis il dit, comment se fait-il que tu as quitté l'islam pour devenir chrétien? Il a dit, c'est un peu comme ceci. Supposons que vous êtes en train de vous promener, suivez un chemin, et vous arrivez là, il y a une fourche dans le chemin. Et vous ne savez pas quelle direction prendre. Et là, juste là, où est-ce qu'il y a la fourche, il y a deux hommes. Il y a un qui est mort et l'autre qui est vivant. Il dit, lequel de ces deux allez-vous demander les directions pour bien suivre votre chemin? Vous savez, la réponse est évidente. On va demander à celui qui est vivant. Et ce matin, soyez conscients du personnage. Christ est vivant. Et si nous allons trouver dans cette vie ici-bas sur la terre la joie, la paix, la consolation et l'espérance, c'est dans celui qui vit qu'il faut le trouver. Deuxièmement, si vous voulez avoir cette joie, cette paix, cette consolation, cette espérance, soyez pas non seulement conscient du personnage de la résurrection, mais vous devrez être aussi confiant de la promesse de la résurrection. Si vous regardez votre texte encore au verset 25b, Jésus va faire ici une promesse extraordinaire. Il va dire au verset 25b, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Promesse extraordinaire. Celui qui croit en Jésus un jour va ressusciter même s'il a connu la mort physique. Et ça, c'est une promesse qui devrait nous remplir chaque jour quand on y pense. Et quand on regarde autour de nous, on en voit la souffrance dans le monde. Ça devrait nous remplir de joie et de paix et de consolation et d'espérance. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Vous savez, Job avait cette confiance. Écoutez bien ces paroles, qu'est-ce qu'il a dit dans Job chapitre 19. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. quand ma peau sera détruite. C'est pas une très belle image. Hein? Il parle de, justement de son décès. Quand ma peau sera détruite, il se lavera. Après que ma peau aura été détruite moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Job avait l'espérance de la résurrection. Le grand roi David, dans Psaume 16, avait aussi cette espérance. Écoutez ces paroles. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. David avait cette espérance. Ésaïe aussi, le prophète, avait cette confiance dans les paroles de Dieu. Dans Ésaïe 26, il va dire ceci, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Par de ceux qui sont morts dans le Seigneur, en Christ, en Dieu, et qui a cette confiance qu'ils vont se relever un jour, tressaillés de joie et d'allégresse. Et chers amis, ce matin, avez-vous cette confiance? Avez-vous cette paix, cette joie, cette espérance que si vous mourrez un jour, si le Seigneur n'est pas encore revenu, vous allez revivre un jour? Vous savez, on vit dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées, anxieux, craintifs face à l'au-delà. Vous savez, on est devant une promesse ici ce matin que Dieu nous a donnée, justement pour nous donner cette joie, cette confiance, cette espérance, cette consolation. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Si on veut avoir cette consolation, cette espérance, il ne faut pas seulement lire la promesse, il faut se l'approprier. J'aimerais que vous remarquiez trois choses à propos de la promesse. Dans un premier temps, le Seigneur a dit, celui qui, j'appelle ça le champ de la promesse. C'est pour votre mononcle, votre matante, votre frère, votre soeur, votre grand-père, votre grand-maman, vos enfants, mais surtout aussi pour vous. Celui qui, ça inclut tout le monde. Vous savez aussi, il y a une condition. Condition de la promesse, c'est de croire. Et même si le Seigneur offre justement cette merveilleuse promesse de la résurrection à tous, c'est attaché quand même avec une responsabilité. Et c'est votre responsabilité ce matin, c'est la mienne ce matin, de croire à cette parole. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par croire? Celui qui croit en moi vivra. Vous savez, on peut croire de façon intellectuelle. La parole de Dieu nous dit que le démon croit et tremble. Dans un premier temps, celui qui croit en Jésus reconnaît sa divinité. Vous ne pouvez pas participer dans la résurrection si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Romains chapitre 1 au verset 4, Jésus a dit ceci, l'apôtre Paul, que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 10, 30, Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Et celui qui m'a vu, il a dit, a vu le Père. Et pourquoi c'est si important de croire que Jésus est Dieu? Parce que Dieu est la source de toute vie. Et la résurrection, c'est la vie qui est redonnée à l'homme qui meurt. Et la seule personne dans tout l'univers qui peut redonner cette vie, c'est Dieu. Alors, il faut croire que Jésus a le pouvoir, il est Dieu lui-même. Et Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans ce texte ici, il dit, « Je suis la résurrection et je suis la vie. » Alors, premièrement, crois dans la divinité de Jésus. Vous voulez avoir la vie? C'est en Jésus. Si vous voulez revivre après la mort, la réponse est en Jésus. Deuxièmement, croire veut dire aussi reconnaître votre culpabilité. Parce que si Dieu est la source de vie, et l'homme a été créé à l'image de Dieu, la question doit se poser maintenant, comment se fait-il que l'homme meure? Il y a un problème en quelque part. La réponse est simple. Si Dieu la vie et l'homme meurt, ça veut dire que l'homme est séparé. Il est séparé avec la source de vie qui est Dieu lui-même. Et vous savez tous, la Bible nous enseigne que la source, cette séparation qui va nous amener à la mort physique et ultimement la mort spirituelle, c'est le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi l'homme meurt. Ça, c'est pourquoi on est séparé, on est condamné à la mort spirituelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu lui-même a déclaré aussi que c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, il faut commencer là. Il faut commencer à reconnaître que Dieu est la source de vie. L'homme est mortel, il meurt. Mais vous savez, il y a une solution à cette problématique. Dieu a donné à l'homme la possibilité de se repentir. Et se repentir veut dire simplement d'être en accord avec ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Si on est prêt à accepter que Dieu a dit que tous sont péchés et sont privés, séparés de la gloire de Dieu, si on est prêt à accepter que le salaire du péché, c'est la mort, et si on est prêt à dire à Dieu, oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux que ça change, ça c'est ce qu'on appelle la repentance. Et ça commence là. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus a dit dans Luc chapitre 13 au verset 3, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et l'apôtre Paul, quand il a prêché, il a dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Alors, si on veut reconnaître justement cette résurrection dont parle Jésus, il faut se repentir. Repentez-vous. Si on veut posséder la vie que Jésus offre dans sa résurrection, repentez-vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi offre son pardon. Et vous savez, la résurrection de Christ, dont nous parlons ce matin, a suivi justement sa mort, sa crucifixion et sa mort. Et comme nous avons vu, le salut, le plan de Dieu, c'est extraordinaire. Le salaire du péché, c'est la mort, oui. On ne peut pas l'échapper, on ne peut pas passer, contourner cela. Dieu est un Dieu qui est juste. Et dans sa justice, il doit juger le péché. Et malheur à vous, si vous continuez votre chemin dans vos péchés, un jour vous allez paraître devant Dieu. Et sa justice est inflexible. Mais pendant votre vivant, Dieu, dans son amour, a trouvé une solution pour la problématique de l'homme. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Il a trouvé un moyen d'épargner le pécheur de cette mort terrible qui l'attend, et tout en même temps de ne pas compromettre sa justice. Et vous savez tous, c'est dans la personne de son Fils. Jésus-Christ, l'innocent, sans tache, homme parfait, par amour est allé mourir sur la croix. Apportez vos péchés, mes péchés sur la croix. La justice de Dieu a été satisfaite. Il a payé la dette pour les péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible dit encore une fois que Christ est mort pour nos péchés. Et comment est-ce que vous pouvez être sûr et rassuré que ce que Christ a fait était assez pour régler le problème du péché? Mais la réponse, c'est la résurrection. Dieu a ressuscité son Fils. Il a élevé en dignité. Et Jésus maintenant est assis à la droite de Dieu. C'est une preuve que son œuvre sur la croix a été accepté, complètement agréé par Dieu le Père. Et maintenant, Dieu peut offrir le pardon pour le pécheur repentant qui veut un changement dans sa vie, qui veut éviter la mort et la mort éternelle et qui veut connaître une résurrection en s'approchant du Seigneur Jésus-Christ et en confessant ses péchés et en acceptant ce que Christ a fait sur la croix à sa place. Dieu maintenant peut vous offrir le pardon. Vous savez que ça, c'est l'amour de Dieu. Et si on refuse cela, un jour, on va être devant Dieu et il va vous demander de payer vous-même pour vos propres péchés. Et la conséquence est terrible. C'est la séparation d'avec lui. Et ça, c'est ce que croire veut dire. Et ça, c'est la rassurance que nous avons dans ce texte. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il passe par la mort physique, je vais le ressusciter parce qu'il a mis sa confiance en moi. 1 Corinthiens 15, 22 nous dit ceci, « Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Et j'aimerais ici apporter juste une petite nuance, parce que le texte ne s'arrête pas là. Tous revivront en Christ veut dire, écoutez le reste de ce texte, chacun en son rang, Christ comme les prémices, on avait déjà vu cela phase 1, puis tous ceux qui appartiennent à Christ. C'est ça la signification de tous revivront. Ceux qui ont mis leur confiance en Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Christ, c'est ceux-là qui vont revivre lors de son avènement. Et ceux qui ne croient pas. Jean 3, 36 nous dit ceci, « Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est certes que cette personne-là va connaître aussi une résurrection, mais une résurrection pour aller ensuite dans les peines éternelles, dans l'enfer, loin de la face de Dieu. Je cite un verset dans Daniel chapitre 12 au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. La résurrection. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Et je termine avec ceci. Troisièmement, il y a une consolation. Soyez consolés par la permanence de la résurrection. Vous savez, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça, c'est la règle générale. Si vous lisez votre Bible attentivement, vous allez voir qu'il y a eu des exceptions. Je parle ici d'Enoch, Élie, les hommes sont allés au ciel sans mourir. Pauvre Lazare dans notre texte, qui se va le ressusciter, mais il va mourir plus tard. Et j'imagine que s'il meurt encore avant ses saints, Marie et Marthe, il faut qu'il refasse tout ce qu'ils ont été en train de faire ici. Mais vous savez que dans notre texte ici, Jésus fait une promesse. Il parle de ceux qui vont revivre pour ne plus jamais mourir. Dans le verset 25-26, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Marquez bien, le texte nous dit, « Quiconque meurt se réveille. » Et comme notre frère Jonathan nous disait ce matin, « Ah, c'était vrai. » Et je crois maintenant. Non, non, non. Le texte dit, celui qui, quiconque vit maintenant et qui croit en moi, c'est celui-là qui ne mourra jamais. Et ici, la résurrection de ces personnes-là va être permanente. Je pense qu'il y a un contraste ici avec les résurrections qui étaient, hein, les hommes qui sont revenus et ensuite qui sont morts. Jésus parle de ceux qui ne mourra jamais. Ils vont être ressuscités, mais pour rester toujours vivants. Et je vais donner juste trois raisons, il y en avoir d'autres, mais juste rapidement trois raisons pour lesquelles il est ainsi. Vous savez que Romains 6, 5 nous dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ par la conformité à sa mort, et aussi par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire que le croyant, celui qui place sa foi en Jésus, est identifié totalement, complètement avec le Christ. Conformité à sa mort, conformité à sa résurrection. Alors la mort de Christ est en quelque sorte la mort du croyant. La résurrection de Christ est en quelque sorte la résurrection du croyant. La vie de Christ devient aussi la vie du croyant. Paul dans Galates 2:20 va dire, j'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors il y a cette identification où est-ce que le croyant et le Christ sont ensemble. Et c'est pourquoi nous pouvons maintenant parler de la permanence de la résurrection. Dans un premier temps, quand on est dans l'unité avec la mort de Christ, vous allez justement bénéficier de ce que la mort de Christ a procuré. Et la mort de Christ était une mort unique. Pourquoi? Parce qu'en mourant, Christ a brisé le pouvoir du péché qui est la mort. Dans les paroles de Christ, il va dire ceci dans Romains chapitre 6 au verset 9, les paroles de Paul. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et si vous êtes croyant et vous êtes identifié avec la mort de Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur vous non plus. Alors, lors de la résurrection, Christ peut dire, celui qui vie et croit en moi ne mourra jamais. Parce que la mort n'aura plus de pouvoir sur vous. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Vous êtes identifié avec la mort de Christ, la mort n'aura plus de pouvoir sur vous. Deuxièmement, la résurrection de Christ aussi, le chrétien est associé dans la résurrection de Christ. Et comme je vous ai dit, la résurrection de Christ prouve sans un nombre de doutes que Dieu a accepté entièrement
le paiement pour le péché. Et comme nous avons vu ce matin, il y a des frères qui ont lu des textes, que Christ n'a pas besoin de répéter l'expérience de mourir encore. Il a offert un seul sacrifice une fois pour toutes. Hébreux 10, 12 nous dit, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, par sa mort, Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et ça, c'était après sa résurrection. Et si le croyant maintenant, comme la texte nous dit, est associé, et puisque le croyant est associé avec la résurrection de Christ, il n'a plus besoin non plus de passer par la mort. Christ est mort une fois pour toutes. Le croyant, identifié avec la résurrection de Christ, est aussi épargné d'une deuxième mort. Et troisièmement, finalement, vous savez que Christ aujourd'hui vit. On a parlé de sa mort, sa résurrection. Christ vit éternellement. Apocalypse 1, 18 nous dit, Christ dit ceci, « J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et le croyant qui est uni avec Christ dans sa mort, dans sa résurrection et dans sa vie, a aussi la certitude de vivre au siècle des siècles. C'est pourquoi la Bible parle de la vie éternelle. Et je vous cite juste un verset, Jean 3, 16, que vous connaissez tous, « Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, le texte que nous avons vu ce matin, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il va vivre au siècle des siècles, parce qu'il est uni dans la vie de Christ. » Et Jésus a dit à ses disciples, « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » On nous dit qu'il y avait un petit garçon qui était malade. Et il était un membre d'une classe d'école du dimanche. À cause de sa maladie, les autres enfants, troisième année, qui avaient 7-8 ans, là, avaient la difficulté à l'accepter dans leur classe. Mais il y avait une monitrice qui était là, qui était vraiment charmante, créative, puis finalement il a commencé là, pour son attitude envers ce garçon-là. Tranquillement, les autres enfants commençaient à l'intégrer partiellement dans le groupe. Et le dimanche après Pâques, la monitrice a apporté des boîtes en classe, des petites boîtes, donné à chaque élève une boîte, à chaque enfant, et leur a demandé d'aller dans par une belle journée ensoleillée du printemps. Ça ne se passait pas au Québec, ça c'est sûr. Et de rapporter un objet qui symbolisait la nouvelle vie. Et de mettre cet objet dans la boîte. Vous savez, les enfants, ils adoraient ça. Là. C'était un changement de la routine d'être assis sur les bancs. Là, fait, allait courir autour de l'église. Puis, il y avait du fun. Et finalement, ils ont revenu, chacun avec sa boîte. Ils ont mis ça devant la monitrice. Et là, tout le monde était autour, la monitrice. Puis là, elle ouvrait les boîtes, puis regardait ce que les enfants avaient rapporté. Et dans la classe, on pouvait entendre des « Ouh, wow, des « Ah !» Il y avait des belles choses dedans, des fleurs. Il y avait des feuilles, les garçons avaient rapporté des chenilles, et en tout cas, il y avait toutes sortes de choses dans les boîtes. Finalement, il en arrive à une boîte, il n'y avait rien dedans. Et les enfants ont exclamé, ça c'est stupide, c'est pas juste. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Petit garçon, Philippe, il a parlé, il a dit non, ça c'est ma boîte. Il a dit, ça c'est ma boîte. Les enfants qui avaient déjà la difficulté à l'accepter, ils disent, Philippe, fais jamais rien correctement. Il n'y a rien dedans. Tu n'as pas fait le travail que la monitrice a demandé de faire. Et Philippe il a insisté, il dit, non, ce n'est pas vrai. J'ai fait mon travail. Ma boîte est vide. parce que le tombeau est vide. Là, il y avait un silence dans la classe. Et on nous raconte que, après cela, tous les jeunes enfants l'ont vraiment accepté dans le groupe. Philippe est mort quelques temps après. Et lors de ses funérailles, les autres enfants ont tous déposé un objet sur son cercueil. Mais ce n'était pas des fleurs. Chacun a apporté leur petite boîte. Mais cette fois-ci, la boîte était vide. Vous savez, ce matin, le tombeau est vide. Christ est ressuscité. La question que j'aimerais vous laisser, qu'est-ce que ça change dans votre vie? On va prier. Seigneur, merci pour ces paroles qui nous réconfortent. Qu'un jour, nous allons te voir face à face. Merci pour cette belle promesse de la résurrection. Toi qui as trouvé une solution pour notre problème, la mort, la séparation d'avec toi. Seigneur, on ne peut pas jamais assez te remercier pour ton amour, ta grâce, ton pardon. Ce matin, nous voulons nous réjouir dans ta bonté, dans ton amour. Et Seigneur, ma prière, c'est s'il y a quelques-uns ce matin qui ne connaissent pas cette joie, cette paix, cette espérance, cette consolation que la résurrection donne, que tu puisses parler à son cœur et l'attirer vers la personne de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Merci ce matin que le tombeau est vide. Merci ce matin que Christ est ressuscité. Merci ce matin qu'il reviendra un jour nous chercher pour nous amener auprès de lui. Seigneur, continue à nous bénir. Garde nos yeux fixés d'en haut. Nous te bénissons, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen.